Alors nous allons passer à la discussion. Alors cette discussion va porter bien sûr sur les exposés qui viennent d'être faits, mais également sur la dernière session avant le déjeuner, c'est-à-dire pourquoi préserver, conserver le patrimoine. Donc à la fois la préservation du patrimoine et les expériences concrètes très intéressantes et très diverses qui nous ont été montrées. Là, nous sommes ouverts aux questions. S'il vous plaît, présentez-vous avant d'utiliser le micro et faites des questions, posez des questions brèves ou des interventions brèves. Merci.
Merci. Patrice Sen, président du CCSTI de Grenoble. Moi, j'ai une question un peu générale qui s'adresse quand même pas mal aux participants à la table ronde ce matin, surtout les deux derniers. C'est quand on parle de public. Pour moi, il n'y a pas un public, mais il y a énormément de public. Et il y a une personne ce matin qui a parlé de la complexité du monde. Je crois qu'elle est aussi la complexité du public. Et il me semble, je crois que c'est Marie-Christine Bardot qui a parlé d'approche réflexive dans des nouvelles formes de musées. Je pense que ça s'adresse à des gens qui ont déjà un peu cette culture scientifique et qui veulent aller plus loin. Il y a aussi toute une population qui est très distante du monde scientifique et qui, elle, peut être très intéressée par un premier abord à voir peut-être des choses plus classiques. Et donc ma question était, quand on parle de public, et je parle bien de l'aspect valorisation du patrimoine, je suis toujours un peu, comment dire, prudent quand on l'assimile à quelque chose de trop monolithique. Pour moi, le public est très varié et je pense qu'il y a besoin de toutes les formes de présentation. Et juste un petit détail, c'est Monsieur Saez qui a parlé de l'Explorarium de San Francisco ce matin. Moi, je l'ai visité aussi. C'est une sorte de palais à la découverte un peu en mieux, mais ce qui m'a le plus intéressé dans l'Explorarium, c'est ce qui était à côté. C'était l'atelier où on fabriquait les nouvelles machines, qui étaient un petit peu à l'origine des Fab Labs. Donc voilà, c'est un peu la question sur le public.
Oui, hein, je crois que Marie-Christine Bordeaux n'est plus avec nous, mais effectivement, c'est une question très intéressante. Et en particulier, il y a un public dont il n'a pas été question jusqu'ici, c'est le public des jeunes, et même les publics des jeunes, parce que le public de l'école primaire, du collège et du lycée sont assez différents. Et c'est quelque chose, c'est un aspect qui fait l'objet de beaucoup d'attention en ce moment. Il y a des actions qui sont lancées, des appels d'offres, et pour en particulier enrayer ce mouvement de désaffection des jeunes à l'égard des études scientifiques. C'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant et nous pensons que la médiation scientifique peut jouer un rôle d'encouragement, d'incitation, même également de découverte. Voilà, il existe des métiers dont évidemment les jeunes n'ont pas conscience, des métiers intéressants, et je pense que c'est un défi tout à fait crucial pour notre avenir. Je ne sais pas si le public a une expérience de cette nature, c'est-à-dire la médiation scientifique ou d'une façon générale patrimoniale en direction d'un public, des publics jeunes.
Je vois l'intérêt que de la santé. Et où il n'y a rien, enfin bon, je vois nous, Ali.
Allô?
le musée de la PHP a fermé ses portes, et alors que nous, on est sollicités. Et moi, je sais que je fais visiter le musée à la fois à des élèves qui préparent, par exemple, le concours de l'école d'infirmière, qui sont très demandeurs, en tout cas, les formateurs sont très demandeurs et sont toujours présents sur nos expositions, puisque eux, c'est un complément à la formation qu'ils ont. J'ai tous les élèves de l'IFSI, j'ai également tous les élèves de la formation cadre de santé, des trois IFSI de Grenoble. J'ai également là, une demande récente d'un IFSI qui est à Aubenas en Ardèche. J'ai les étudiants de médecine également depuis un an ou deux. Donc voilà, en tout cas, il y a une demande de ces publics-là qui est importante. Et finalement, où nous, je me rends bien compte que sur le patrimoine de la santé, il n'y a pas de réponse actuellement. Et c'est dommage avec le projet de Lyon, mais où je crois que l'histoire de la santé a été évincée par le musée des Confluences. Hein. Donc je ne suis pas très au fait de tout ça, mais voilà.
Merci. D'autres questions sur ce thème ou sur d'autres? Oui.
Juste un petit mot à propos des jeunes, parce qu'effectivement, au musée Bolo, on a pas mal de classes de jeunes qui viennent, comme on a aussi des groupes d'anciens. Mais disons, aujourd'hui même, en Suisse, c'est la journée des métiers, ça s'appelle. C'est une fois par année où on a les enfants d'école primaire qui viennent découvrir les métiers de leurs parents. Et j'ai eu beaucoup de réservations du musée Bolo pour la journée, parce qu'il faut croire que c'est quand même, voilà, que c'est une manière d'aborder l'informatique, d'aborder les études d'informatique aussi, peut-être de faire envie. Je pense que c'est pas forcément des études qui sont forcément faciles à appréhender. Et puis voilà, peut-être une occasion d'utiliser un patrimoine pour faire envie de faire des études.
Oui. Bernard Pelker pour Terne. Une question pour le musée Bolo et à Konit sur les collections informatiques, mais que l'on pourrait généraliser à toutes les autres collections. En informatique, on assiste à un foisonnement, à une dispersion dans de nombreux domaines, à une évolution qui imprègne complètement la société. Est-ce que vous intégrez non plus un patrimoine du XXe siècle, mais le patrimoine du XXIe, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous considérez que votre musée a une fin datée, ou bien est-ce que vous souhaitez le faire évoluer, et comment voulez-vous le faire évoluer? Mais je pense que ça s'applique à d'autres domaines que l'informatique.
Pour Aconit, moi, ce que je peux dire, c'est que notre collection démarre en gros vers 1930 à peu près, avec une importante partie de mécanographie. Et c'est vrai que quand on reçoit des groupes de jeunes, et là c'est aussi un peu à ce que disait Patrice Sen, nous avons des niveaux de discours très différents suivant que ce sont des anciens des métiers de l'industrie, ou que ce sont des jeunes qui se présentent. Mais on passe toujours beaucoup plus de temps sur les vieilles machines que sur les micros. Parce que sur les vieilles machines, on peut leur montrer des choses et on peut leur expliquer comment ça marchait. À part ça, pour en revenir à votre question précise qui était concernant le 21e siècle, les machines les plus récentes que nous avons sont du début des années 2000. On vient de recevoir un gros serveur. Là, c'est pas IBM. Nous, c'est Hewlett-Packard qui nous a donné un gros serveur. C'est une machine Hewlett-Packard que EDF nous a donné, un gros serveur en état de marche, sur lequel j'espère bien pouvoir faire des démonstrations pour montrer un peu à des gens ce qu'est la taille des machines actuelles. Parce que tout le monde croit que les machines sont de plus en plus petites, c'est pas vrai. Il y en a qui sont de plus en plus petites, mais il y en a qui sont de plus en plus grosses. Et nous voudrions absolument, on en parle, on ne peut pas leur montrer grand-chose, mais ce que nous aimerions, c'est avoir des expositions. Nous pensons ici au campus peut-être avoir un espace d'exposition. Et je voudrais que dans cet espace d'exposition, disons, les deux tiers soient notre collection et qu'un tiers soit réservé aux industriels, Hewlett-Packard, centre de recherche et autres, pour présenter sur quoi ils travaillent, dans la même salle, au bout.
Alors, à propos de la fin éventuelle des collections, alors au musée Bollo, c'est clairement pas le cas, comme à Konit. Je dirais on fait attention à ce qu'on récupère par rapport au problème de la place de stockage, clairement. On va pas récupérer des pentiums d'ailes qui sont tous les mêmes. Mais je dirais, d'accord avec moi. Par contre, c'est clair qu'on continue dans des machines qui ont un intérêt particulier. Je pense par exemple au design. Quand on parle du design des machines Apple, il y a toute une histoire du derrière. Donc c'est très important pour nous aussi, même si ce n'est pas de la pure informatique technologique, le design des machines. Puis naturellement, quand on parlait du superordinateur, ce sont des machines d'exception qui seront des machines mythiques dans 50 ans. Donc vraiment, il faut absolument conserver cette partie-là aussi. Je dirais c'est plus, en fait, on se projette un peu dans l'avenir, on se projette dans 50 ans, puis on se dit, mais qu'est-ce qui sera intéressant dans 50 ans ? C'est clair, le Pentium Dell, il ne sera pas intéressant, même dans 50 ans. Tandis que la machine exceptionnelle, oui.
Anne-Marie Delattre, Musée des Confluences. Je voulais juste me... prendre un petit peu... Comme ça. Bon. Non. Comme ça. Bon. On reprend. Donc, je voulais répondre à Sylvie Bretagnon à propos de la thématique de la santé au musée. Donc, je vais aborder un petit peu dans la présentation. C'est une thématique à aborder avec quelques objets. L'ensemble de radiologie que je vous montrerai tout à l'heure, et puis également une partie plus orientée sur le vaccin, les biotechnologies, etc., avec un fermenteur français que nous allons présenter aussi. Après, sur Comté à Lyon, ce micro, il y a un projet musée de la santé et le musée des Confluences, en fait, avait participé à l'écriture du projet scientifique et culturel, mais ça n'allait pas au-delà. Et Jean-François Jal devait nous le présenter cet après-midi, nous donner un petit peu un état de l'art sur ce musée de la santé, qui est en fait assez mal parti, il faut bien le dire. Il devait prendre place à l'Hôtel Dieu, qui est en cours de rénovation. Donc il y aura bien le musée des Hospices Civils, puisqu'il est musée de France, là on ne peut pas zapper les collections. En revanche, le projet lui-même, musée de la santé, tel qu'il était conçu, il y a peu de chances en fait qu'il existe. Il devait présenter les collections des musées universitaires, donc musée d'histoire de la médecine, musée d'anatomie, musée dentaire, également la collection de radiologie qui dépend des Hospices Civils de Lyon. Tous ces musées, les trois musées de Lyon 1, doivent déménager d'ici un ou deux ans. On ne sait pas du tout quel va être leur sort. Et pour l'instant, le projet Hôtel Dieu s'oriente sur les rapports entre nutrition et santé, puisque Lyon étant extrêmement vexé de ne pas avoir été élu cité de la gastronomie, notre bien-aimé maire se venge en faisant un espace spécifique là-dessus, qui va être extrêmement intéressant, on n'en doute pas, mais qui sera très limité sur l'histoire de la santé.
Merci. D'autres interventions ? Alors moi je peux relancer une question qui a été posée tout à l'heure sur la science, ou la science, ou disons le patrimoine contemporain, et en particulier scientifique et technique. Et je pense que ça pose la question de la place de l'histoire. Comment, en quoi le patrimoine, la visite, la mise en valeur du patrimoine peut contribuer à faire connaître l'histoire. Et l'histoire des sciences et techniques, à mon avis, est très négligée chez nous, en particulier dans l'enseignement. Et pour prendre l'exemple de l'informatique, l'histoire est très brève, finalement. puisqu'on l'a fait commencer. Alors bien sûr, il y a des précurseurs, il y a eu des machines, il y a eu bon, des algorithmes conçus dans l'Antiquité, etc. Mais la vraie histoire de l'informatique, c'est 80 ans, à peine, 80 ans. Et pourtant, il y a eu un certain nombre de révolutions. Et c'est très intéressant de voir à quel point ces révolutions ont changé le paysage en très peu d'années. Et je pense que c'est tout à fait intéressant de prolonger cette étude jusqu'au temps, à l'époque actuelle. C'est vraiment très important de voir la continuité de cette histoire, y compris justement dans les ruptures, la continuité dans les ruptures.
Au niveau de l'AFID, Association pour le patrimoine de l'industrie, nous constatons que notre public, qui n'est pas toujours scientifique, aborde très volontiers les aspects scientifiques et techniques lorsque d'abord on l'y amène par l'histoire et également en plaçant le contexte de ce qu'ils vont voir dans le contexte économique de la période. Voilà. Et notre public n'est pas jeune, mais par contre, il est d'horizons très variés.
Autre remarque ou intervention ? Oui ?
De contemporain et de voir de quelle manière on peut donner une dimension historique au contemporain. Je crois que le contemporain est un vrac, c'est-à-dire avant, il y a très longtemps, il y avait une distinction entre les disciplines, les historiens s'occupaient de l'histoire, les sociologues s'occupaient du contemporain, sans se poser de questions sur ce que représentait le contemporain. Mais il y a plusieurs phénomènes. C'est la première chose, c'est que le contemporain s'est étendu. Non, je reviens en arrière. C'est que il y a eu une transformation des disciplines. Les historiens ont voulu faire de la sociologie, sans parler des autres sciences humaines, et les sociologues ont voulu faire de l'histoire, ce qui était très bien. Et puis une deuxième chose, c'est que le contemporain s'est étendu, c'est-à-dire que ce qui était le contemporain est devenu moderne, si on reprend les catégories de l'art. Ce qui était contemporain est devenu moderne, ce qui est contemporain et ce qui est actuel, on ne sait plus très bien voir la différence entre actuel et contemporain, ce qui donne à cette dimension diachronique à la fois une dimension historique, puisque maintenant on peut considérer que les années 45 à 60, le contemporain c'est l'histoire. Et cette profondeur change tout à fait la vision du contemporain. La deuxième chose qui est très importante, c'est l'expérience des musées, des ethnologues qui se sont repliés sur le territoire national depuis le contemporain et qui ont appliqué des méthodes sur leur propre société et qui ont introduit des objets de nature totalement différente. Vous avez un problème de temps ?
Oui. Oui, nous avons un problème de temps parce que il est. Oui. Non, mais nous vous remercions de votre intervention. Je pense qu'il amène une perspective nouvelle là, ouverte, dont on pourra reparler. Et donc on va clore cette séance à 15h45. Donc on a 20 minutes. On a 20 minutes de pause. Merci. Merci à tous les intervenants.